les 150 ans de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, société savante et personnalité régionale. Rencontre scientifique organisée par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne à l'occasion du 150e anniversaire de sa fondation, novembre 1873-novembre 2023, avec le concours de la ville de Bayonne. Les 150 ans de la SSLA à la Maison des associations de Bayonne, les 22 et 23 novembre 2023. Les liens entre l'Auvergne et le Sud-Ouest à travers trois écrivains, Henri Pourrat, Arsène Vermenouze et Camille Gandilon. Une intervention de Laurent Tedjen, historien, écrivain de l'Académie des Belles-Lettres de Clermont. Les liens entre l'Auvergne et le Sud-Ouest à travers trois écrivains, Henri Pourrat, Arsène Vermenouze, Camille Gandilon, Laurent Tedjen.
Alors, pour expliquer un peu la genèse de cette présentation, en fait, en Auvergne, je travaille pour différents journaux et j'étudie plus particulièrement tout ce qui tourne autour de la littérature et de l'Auvergne. Donc, j'étudie les grands écrivains et de temps en temps, il m'arrive de tomber sur un lien avec le Sud-Ouest. Alors évidemment, toujours ça éveille mon attention et je me dis, je vais essayer de creuser un peu ça. Je le garde de côté pour le creuser, l'étudier et puis éventuellement le partager un jour. Et c'est aujourd'hui, j'ai l'occasion de partager ces quelques liens que j'ai pu trouver entre les quelques écrivains de l'Auvergne et puis le Sud-Ouest, parfois le Pays Basque. Alors, je vais évoquer, comme vous l'avez présenté, je vais évoquer de façon un peu anecdotique, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire quand même, deux écrivains, Arsène Vermenouze et puis Camille Gandilon, gendarme. Et puis, je développerai un peu plus... Deux auteurs quand même d'une réputation beaucoup plus importante, c'est Francis Jammes et puis Henri Pourrat, qui ont été amis épistolaires surtout, mais voilà, qui ont eu une correspondance très riche, et je vais le développer. Alors, quelques mots sur Arsène Vermenouze. J'avais pas prévu de parler un peu de sa jeunesse, mais comme je sais qu'on a des Espagnols qui sont parmi nous, je pense que ça pourrait les intéresser de savoir que Arsène Vermenouze, donc, qui était né en 1850 à Vielle d'Ivrac, c'est à côté d'Aurillac. Donc il est né dans une région, le Cantal, qui à cette époque est très pauvre, hein, il faut bien le dire. On se rapproche un peu des conditions dans lesquelles on vivait au Pays Basque, qui nécessitaient une émigration. Et en fait, beaucoup de familles de cette région du Cantal émigraient, alors non pas comme les Basques, plutôt vers l'Amérique du Sud, mais vers l'Espagne et la Castille, où ils allaient faire du commerce. Donc ces Cantalous partaient généralement 2 ans, faire des campagnes de 2 ans de commerce en Castille, et puis revenaient ensuite, comme ils disaient, prendre l'air d'Auvergne pendant quelques mois. Ben, ils ramenaient le produit, mettaient leurs affaires en ordre, etc. Ils faisaient des enfants aussi. Et puis ils repartaient pour une autre campagne. Et donc Arsène Vermenouze, il va suivre son père comme ça, dès l'âge de 16 ans, après avoir terminé l'école du côté d'Aurillac, il va passer une 20aine d'années avec son père en Castille, faire du commerce. Alors, pourquoi j'en parle? C'est parce qu'il va aussi se découvrir un don d'écriture, et il va écrire de la poésie qu'il va envoyer vers des journaux locaux du côté d'Aurillac. Quand il va revenir à la fin des années 1880, bon, il va se stabiliser, reprendre une distillerie. Et surtout, il va s'intéresser au Félibrige. Et en fait, si le Félibrige auvergnat avait été déjà créé, c'est lui qui va donner une véritable impulsion au Félibrige. Il va créer l'école du Félibrige auvergnat, dont il va écrire le manifeste. Il va être le premier majoral du Félibrige auvergnat, et il va créer un journal, Lou Cobierto, qui va avoir un tirage considérable. On n'imagine pas un journal qui, tous les mois, tire à 7000 exemplaires en Languedoc. Eh bien, il va le faire. Il faut dire qu'il a une très grande audience auprès des Auvergnats de Paris aussi. Il va ensuite se retirer des affaires à la fin des années 1890, se consacrer au félibrige et à l'écriture de la poésie. Et il sera d'ailleurs, en 1903, il recevra le Grand Prix de l'Académie française de poésie, pour la poésie qu'il écrivait en français. Donc c'est tout de même aussi un poète d'un certain renom. Il va être proposé pour prendre la suite de Mistral comme majoral donc du félibrige national, je dirais, du Sud-Ouest, mais il était déjà malade et il préférera se retirer et conseiller une autre personne pour prendre cette place. Il décédera ensuite en 1910 dans sa maison natale. Alors, je voulais passer là. Alors, quelques vues. Donc, le buste d'Arsène Vermenouze qui se trouve à Aurillac. Vieille Dytrac, la maison à gauche, c'est la maison dans laquelle il est né. Et puis à droite, c'est Fortune Faite. Il a fait construire un appendice qui est beaucoup plus beau. Voilà. Donc, il est mort à gauche, il est né à gauche, il est mort à droite, là, dans sa maison. Bon, une petite vue de son village. Alors, pourquoi je vous en parle ici ? Ben, là, vous verrez, c'est juste anecdotique. C'est en fait parce qu'en 1901, il est venu à Pau. Notre collègue de Pau est malheureusement parti, mais il était venu à Pau pour la Sainte-Estelle. La Sainte-Estelle, c'est la grande fête du Félibrige au niveau national. Donc, il était venu et il avait eu l'occasion de rencontrer... Il le connaissait déjà de manière épistolaire, mais il a de rencontrer Adrien Planté, qui était le président de l'association Gaston Phébus, qui était le félibrige en fait, du Béarn. Et il semblerait qu'il ait eu aussi des contacts avec, peut-être pas avec Antoine d'Abadie, mais avec les organisateurs des fêtes basques. Alors ça n'a rien à voir avec la Languedoc, mais ça participe quand même du même type de démarche. Mais cet aspect-là m'a été dit de manière orale et demanderait à être vérifié. Voilà, ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Bon, je reconnais, il n'y a pas grand-chose à dire quand même, mais comme j'avais trouvé quelque chose sur le Sud-Ouest, je voulais le signaler. Alors, deuxième personnage, Camille Gandilon, gendarme. Alors, Camille Gandilon, gendarme, lui est né en 1871, fait ses études à Murat et puis part à Paris. Donc, il part à Paris où il va avoir une carrière, je dirais, alimentaire de fonctionnaire. Enfin, il est professeur et puis il est d'anglais et d'allemand, donc il maîtrise ses langues. Et en fait, il va avoir plutôt une carrière, voilà, je dirais, de fonctionnaire. Mais il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est la littérature. Il va fréquenter les milieux parnassiens, les symbolistes. Il se rappellera avoir rencontré d'ailleurs Paul Verlaine titubant. Enfin, ça c'était classique, titubant dans les rues. Voilà. C'est typiquement l'Auvergnat qui a émigré à Paris, l'Auvergnat de Paris. Il faut savoir que dans cette période du 19e siècle, c'était la communauté auvergnate était la plus grosse, plus importante communauté, je dirais, provinciale installée à Paris. Hein. C'était il y avait tout un réseau. Ils avaient leur propre journal, l'Auvergnat de Paris, je vais y revenir, qui tirait à des dizaines de milliers d'exemplaires, qui était lu bien au-delà d'ailleurs de la communauté auvergnate. Ben, vous savez que les Auvergnats, Jean Économe, ont commencé par le vin et charbon pour ensuite racheter tout un tas de brasseries. Et aujourd'hui, toutes les grandes brasseries qui se trouvent sur les boulevards parisiens appartiennent à des descendants des Auvergnats. Alors, Camille Gandilon, gendarme, va rentrer à l'Auvergnat de Paris. Bon, il a la plume facile. Il a l'esprit vif et acéré, et il va s'occuper de la rubrique art et lettres de l'Auvergnat de Paris. C'est une rubrique, c'est un journal hebdomadaire, c'est une rubrique qui est toujours en première page. Et en fait, il va avoir une véritable réputation de, une réputation de critique et de critique très influent. Je ne dis pas qu'il faisait la pluie et le beau temps dans la vie culturelle parisienne de l'époque, mais il avait un poids extrêmement important parce que c'était quelqu'un qui avait le jugement pertinent, qui était reconnu, qui avait une façon d'écrire qui rendait sa et puis bon, aussi un sens de la polémique un peu qui rendait sa lecture agréable. Et donc il va avoir un énorme succès et un poids considérable. Et il va écrire dans l'Auvergnat de Paris jusqu'en 1947, et il va, l'année de sa mort, publiant plus de 1000 rubriques donc sur les arts et lettres. Alors, si je vous parle de tout ça, c'est parce que... Alors voilà, là, c'est près de Murat, c'est sa ville son village de naissance, hein, dans un environnement assez grandiose. Alors, si je vous en parle, c'est parce que, voilà, sa maison de La Roquevieille, où il est décédé. Alors, La Roquevieille, c'est au fin fond d'une vallée du Cantal, au nord d'Aurillac. La maison est tout au bout d'une impasse, difficile à trouver. Donc, je travaillais sur cette personne. Là, je travaillais pas sur le sud-ouest, pas du tout. J'en étais bien loin, vous comprenez. Je travaillais sur cette personne. Je recherche la maison. Je trouve la maison. Et puis, j'y arrive. Il y avait une fête de famille dans cette... je sonne, hein, voilà, un peu au culot. Je me présente, ce que je fais, etc. Généralement, les gens m'accueillent les bras ouverts. Et puis, ils me font visiter les lieux, ils me font visiter la maison et le bureau donc de Camille Gandillon, gendarme, avec sa bibliothèque. Et je regarde la bibliothèque et sur quoi je tombe ? Sur les livres de François Diourcault, figurez-vous. Et je les prends en main, ils étaient tous dédicacés à Camille Gandillon, gendarme, avec une très aimable dédicace. Et donc, en particulier, je me rappelle le livre sur la Côte d'Argent, le Béarn et puis le Pays Basque. Voilà, donc je trouve ces livres de Diourcault là-bas, tout au fond du Cantal. C'était pour moi un petit choc quand même. Hein. Voilà. Et alors j'ai recherché un peu comment ils avaient été en relation. Et en fait, il y a plusieurs chroniques de l'Auvergnat de Paris qui font allusion à Camille Gandillon, gendarme, pour deux aspects. D'abord, suite à la parution de son ouvrage sur Barrès. Donc, Camille Gandillon, gendarme, remercie François Diourcault parce qu'il a mis en évidence l'arvernisme de Maurice Barrès. Maurice Barrès, tout le monde pense qu'il est lorrain. C'est vrai, il est lorrain. Mais par son père était auvergnat, donc de Blêle, dans le Cantal. Et donc, Maurice Barrès est un quart auvergnat. Et les auvergnats sont très, très pointilleux sur le fait que Maurice Barrès, il est un quart auvergnat. Voilà, et pas du tout 100% lorrain. Donc voilà, il remerciait Camille Gandillon, gendarme, remerciait François Diourcault pour avoir rappelé ce point, et ils ont été en relation suite à la parution du livre sur les 3B, la Béarn Basquie Bigorre, pour une théorie sur laquelle je ne m'avancerai pas, mais il y a sans doute des spécialistes du Pays Basque qui pourraient en parler. Comme quoi, il y aurait dans l'Auvergne occidentale des villages, des petits villages dont le nom aurait la même origine que des noms basques. Et cela proviendrait de l'immigration, il faut que je me rappelle, ibéro-caucasienne ou de la Macédoine, qui serait liée au mouvement des Basques vers l'Euskadie. Actuel. Alors ça, moi je ne m'avance pas là-dessus, mais ça me semble un peu farfelu, mais voilà, donc c'était une théorie sur laquelle ils ont échangé. Le Cantal, le Cantal que je ne connaissais pas, c'est magnifique. Hein. Bon, ça, la voix intérieure de Maurice Barrès, donc c'est cet ouvrage en particulier que j'ai trouvé dédicacé à Camille Gandillon, gendarme. Donc Camille Antillon Gendarme va se retirer au moment de... En 1939, il se retire dans le, en Auvergne. Il achète donc cette maison de la Roquevieille là, que vous avez vue. Il va continuer, enfin, sauf une interruption pendant la guerre, il va continuer à envoyer ses chroniques, jusque, comme je vous le disais, jusque 1948, la date de son décès. Voilà, ça c'était le deuxième personnage que je voulais évoquer. Alors, maintenant je vais vous parler d'Henri Pourrat. Donc Henri Pourrat, alors, bon, quelques mots sur la biographie d'Henri Pourrat. Donc né en 1887 à Ambert. Donc Henri Pourrat est marqué très tôt par la maladie. Il a la tuberculose. C'est un enfant fragile. Il va néanmoins partir à Paris pour faire des études d'agronomie. Il est tenté par tout ce qui est agriculture. Donc il voudrait rentrer à l'Institut d'agronomie. Il va rentrer pour le préparer ça au lycée Henri IV. Ses parents sont commerçants, hein, à Ambert. Malheureusement, à peine arrivé à Paris, son état s'aggrave et il est obligé de rentrer à Ambert. Et il va être pendant plusieurs années entre la vie et la mort, hein, il faut bien le dire. Constamment alité, il va s'occuper en écrivant. Voilà. Au début, c'est une occupation, puis il va y prendre goût à l'écriture, et puis il va commencer à écrire, tout d'abord en racontant les histoires que lui contaient ses grands-parents au moment d'éveiller. Ça va être quelqu'un qui va faire d'importants recueils de contes. Je vais en parler. Et puis bon, il va écrire de la poésie, il va écrire des petites chroniques qu'il envoie aux journaux locaux. Et il, ensuite, dans les années 20, il va entreprendre ce qui sera sa grande œuvre, qui est, je pense que vous avez dû au moins en entendre parler, Gaspard des Montagnes. Hein, voilà une grande épopée sur l'Auvergne qui est construite un peu comme une série de veillées, d'ailleurs. Voilà, qui aura en 1932 le grand prix du roman de l'Académie française. Donc ça sera vraiment un peu une consécration. Tout son travail sur la vie paysanne, sur les contes, lui donne une renommée bien au-delà de nos frontières, hein, puisqu'il est déjà en 1927 ou 28, il est docteur honoris causa de l'Université de Dublin. Voilà, pour tous ces travaux qu'il fait sur le conte, sur l'histoire populaire. Très proche de tout ce qui est la vie paysanne, il va au début de la guerre être assez proche, je dirais, du retour à la terre prôné par le maréchal Pétain pour s'en écarter après. Il obtient en 1941, le prix Goncourt pour Vent de Mars. Ensuite, bon, ses positions n'auront aucun impact, d'autant plus que à la fin de la guerre, il hébergera un de ses collègues écrivains et journalistes juifs chez lui à Ambert. Après la guerre, il va se consacrer à la rédaction d'un recueil de contes qui font 13 volumes. À peu près 1000 contes qu'il a recueillis, qui ont été édités chez Gallimard. Donc ça, c'est vraiment, avec Gaspard des Montagnes, son œuvre maîtresse. Et il décédera en 1958. Alors, pourquoi je voulais vous en parler? Parce que, en fait, dès 1909, Henri Pourrat écrit à Francis Jamme pour lui dire « Écoutez, je suis un grand admirateur de votre œuvre, et puis je vous ai... dédicacer un poème que je fais publier dans une petite revue locale, ce à quoi Francis Jamme va lui répondre en lui envoyant une photo dédicacée. Alors, il faut que je fasse quand même une petite parenthèse. J'ai encore du temps, oui. Je fais une petite parenthèse là pour vous conter quand même mes aventures là sur les liens entre Francis Jamme et puis Henri Pourrat. Donc quand j'ai commencé à m'y intéresser, je me suis dit je vais aller consulter la correspondance entre eux deux, donc celle qui se trouve, ce qu'a envoyé Henri Pourra à Francis Jammes, qui se trouve à l'association Francis Jammes à Orthès, qui m'a ouvert ses portes très aimablement. J'ai pu tout consulter, d'ailleurs tout photographier, tout retranscrire. Puis après, je me suis dit, je vais faire la même chose avec la correspondance qu'a envoyé Francis Jammes à Henri Pourra. Donc je suis allé au... celui qui est le dépositaire, c'est la Bibliothèque du patrimoine à Clermont-Ferrand. Et là, les problèmes ont commencé parce qu'on m'a demandé d'avoir l'autorisation de tous les ayants droit. Et comme les ayants droit ne s'entendent pas à cause des histoires d'héritage, de trucs... Donc j'ai l'autorisation de vous en parler, mais je n'ai pas l'autorisation de faire de citation ni de reproduction. J'ai l'autorisation de faire un papier que je vous présente, que l'on pourra publier dans le bulletin, mais je ne peux pas faire plus. Voilà. Alors, et je pense que j'avais quelques relations avec des membres, qui ne le savaient pas, que j'avais des relations avec des membres séparés de la famille d'Henri Pourra. Donc j'ai réussi à avoir ça, mais peut-être que je serai le seul à avoir accès à cette correspondance. Voilà, donc c'est juste une petite parenthèse pour expliquer les difficultés. Mais je reviens donc à cette correspondance qui est très intéressante, mais ce que j'ai compris, c'est qu'elle a été expurgée. Donc, une descendante d'Henri Pourra m'a dit que d'un commun accord, ce qui était entre 1909 et 1929 avait été détruit. Et effectivement, j'ai trouvé des enveloppes qui étaient vides. Bon. Donc, revenons à des choses plus sympathiques. Donc, en 1909, d'ailleurs, Henri Pourra écrit à Joseph Desémars, un érudit local, « Je suis fou de Francis Jammes, j'ai lu toute son œuvre. » Donc voilà, ce qui montre l'intérêt qu'il lui portait. Alors, Henri Pourra a toujours été, et Henri Pourra, c'est un défenseur des valeurs paysannes. Et il pense que le paysan, il a quelque chose à dire à toute l'humanité, dans tous les domaines, que ça soit philosophique, même artistique, littéraire, dans la poésie, le paysan a à dire quelque chose. Il place les valeurs paysannes comme étant fondamentales. Ce qui d'ailleurs le différencie de Francis Jammes. Francis Jammes n'a pas du tout cette approche. C'est un poète de la nature, c'est un poète de la simplicité. C'est une personne qui aime la chasse, la pêche, qui aime la botanique. Mais les valeurs paysannes... Francis Jammes, il avait une métairie qui lui rapportait pas grand-chose, mais il vivait, c'est pas un paysan, et c'est pas il a jamais évoqué les valeurs paysannes. La nature, oui, le paysan, non. Alors je pourrais peut-être dire quelques mots quand même d'Henri Pourra à Amberg, la maison qu'il a fait construire grâce à ses droits d'auteur. Le pays des grands horizons, comme l'appelle Henri Pourra, qui est la vue sur les montagnes, devant la plaine de la Limagne, et puis derrière la chaîne du Sancy, le Cantal, et puis la chaîne du Sancy. Bon, ça c'est la fameuse mairie ronde d'Amberg, devant lequel les copains de Jules Romain, une anecdote, les copains de Jules Romain se donnent rendez-vous devant la maison ronde d'Amberg. Excusez-moi, ça n'a rien aucun rapport, mais je le cite quand même. Alors, donc, je ne peux pas vous parler de ce qui se passe entre 1909 et 1929, je n'ai pas trouvé de correspondance, mais en 1929, Henri Pourra est contacté par les éditions Horizon de France pour la création d'une nouvelle collection qui se veut terrienne. Henri Pourra devient le directeur de cette collection et il souhaite avoir la collaboration d'un certain nombre de grandes plumes dont il admire, par exemple Francis Jammes, Claudel. Voilà. Et donc il va contacter Francis Jammes pour qu'il lui fournisse des textes. Donc il va le presser, on le voit dans les lettres, il le presse pour avoir des textes, et Francis Jammes va en fait pas faire un texte original, il va lui fournir le texte qui est contenu dans Basse-Pyrénées, qui avait été édité chez Milfort, et qui était un texte plutôt une édition de luxe, et donc là ça sera une édition plus populaire. ce livre effectivement paraîtra sous le titre de sous le titre Champêtrerie et méditation. Cette collection, Henri Pourrat voulait lui adjoindre aussi d'autres des almanachs. Et en fait, 1929, les valeurs terriennes, c'est pas le truc à la mode, d'autant plus qu'il y a la crise économique. Et en fait, cette collection va avoir tout juste 4 titres et va très rapidement péricliter. Francis Jam aura donc fourni juste ce texte et quelques poèmes pour les almanachs. 1930, Henri Pourrat demande à Francis Jam d'être le parrain de sa fille à naître. Puis comme il exprime quelques inquiétudes, c'est son premier, la grossesse, et Francis Jam, lui, il a eu 7 enfants. Donc Francis Jam va lui envoyer pour lui rassurer une relique que sa femme portera pour que tout se passe bien. Effectivement, ça se passera bien. Malheureusement, c'était tous les deux des casaniers, Francis Jam et Henri Pourrat, et Francis Jam ne se déplacera pas pour le baptême. Et d'ailleurs, chose curieuse, ils ne se rencontreront jamais. Il y aura toujours une correspondance épistolaire, mais ils ne se rencontreront jamais. Et en fait, alors pour terminer rapidement, en fait, après cet épisode de champêtrerie et méditation, la collection Chant, Les relations qu'il va y avoir entre eux, ce sera plutôt ils s'enverront les livres. Il y aura Gaspard des Montagnes, il y aura Pipe, par exemple, de Francis Jam. Donc il se l'envoie. Il y aura Élie de Nacre ou l'Antigide de Francis Jam. Il l'envoie. Donc l'un envoie son livre à l'autre. L'autre lui dit oui, c'est super. Enfin voilà, ce sont des échanges d'ouvrages. Des demandes de soutien. Est-ce que vous pourriez recommander mon livre à telle ou telle critique? Et puis des demandes aussi, tiens, il y a cet auteur là qui semble méritant, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour qu'il soit édité? Voilà, il y a un certain nombre d'échanges. Ce qui me semble quand même très important à dire, c'est que Henri Pourrat va être l'acteur du retour de Francis Jam vers Gallimard et vers la NRF. Vous savez que Francis Jam s'était fâché avec Gide en particulier, ça avait été son grand ami, puis après il s'était fâché avec Gallimard. D'ailleurs, on lit dans ses lettres, je cite quand même, Gallimard, ce salaud, il nous fait Égide, il avait publié que des trucs dégueulasses. C'est un peu étonnant de lire ça de la part de Francis Jam. Mais voilà, mais en fait, par l'intermédiaire de Jean Paulhan, qui va devenir un ami de Francis Jam, Francis Jam va revenir chez Gallimard, va republier chez Gallimard et va réécrire à la NRF dans la rubrique L'air du mois. Leurs derniers liens seront pour en 1937. Henri Pourrat essaye de sauver la maison d'édition de son ami Goubert, qui s'appelle Les Éditions de la Cigale, et va demander à Francis Jam de lui fournir un texte. Francis Jam lui fournira La Légende de l'aide, donc il paraîtra chez cet éditeur. À noter que Francis Jam avait, d'après sa correspondance, il avait sacrément négocié les droits d'auteur. Il devait avoir 6 000 francs, il a réussi à négocier 10 000 francs. Enfin bon, c'était un redoutable homme d'affaires quand même. Il faut dire qu'il tirait un peu le diable par la queue, Francis Jam. Voilà, et en fait, le 1938, la dernière lettre, c'est Henri Pourrat qui demande des nouvelles à Francis Jam en juillet 1938, mais Francis Jam est déjà malade et il décédera le 1er novembre 1938. Juste pour terminer, ça n'a rien à voir avec ces trois personnes, un petit clin d'œil, là quand même, vous avez cette vue, voilà, donc c'est la vue, une vue du puits, qui est une, c'est comme, ici c'est beau, mais là-bas aussi c'est beau, vous le reconnaîtrez. Et en fait, qui est-ce qui en parle? Je reprends mon texte. Eh bien, en fait, c'est Jean Rameau, le poète et romancier de Conneille, un de nos voisins, qui dit il semble qu'aucun spectacle ne doive réjouir davantage les yeux d'un poète que le panorama du puits et des Cévennes. Là, le tableau est tel qu'on peut défier un homme, quelque fermé qu'il soit aux beautés du paysage, de ne pas pousser un soupir d'admiration.
Voilà.
Les liens entre l'Auvergne et le Sud-Ouest à travers trois écrivains, Henri Poura, Arsène Vermenouz, Camille Gandillon, vous venez de suivre l'intervention de Laurent Tedjen, historien, écrivain de l'Académie des Belles-Lettres de Clermont. Et maintenant, nous écoutons le général Philippe Voûte. Il nous parle de Jean-Charles Capagori, 1894-1981, une brillante carrière au service de la France, loin de Bayonne, le général Philippe Voûte.
Nous allons quitter rapidement les rives de l'Adour et de la Nive pour suivre M. Jean-Charles André Capagori. Alors, bien sûr, tout le monde sait qu'à Bayonne peut s'enorgueillir d'avoir quatre membres des Compagnons de la Libération, deux qui sont bien connus, donc au niveau international, René Cassin, et au niveau national également. Au niveau bayonnais, Marcel Suarez, puisqu'il a été 42 ans conseiller municipal. Un brillant inconnu, Lucien Nouhaud, qui était chef de commando, en quelque sorte, à Toulouse, de 42 à 44, qui est allé à Bordeaux, qui a été arrêté par la Gestapo le 25 juillet 1944. On lui a passé les menottes, et avant de l'interroger, on lui a retiré les menottes. Il avait un deuxième pistolet caché, il a tiré sur les agents de la Gestapo et a été abattu. Et enfin, le quatrième, Jean-Charles André Capagori, qui est l'objet de cette communication. Alors, tout de suite, qui est M. Jean-Charles André Capagori? Bien, je vous le présente rapidement. Ceux qui veulent dormir maintenant le pourront. Les autres, vous pouvez m'écouter. Donc, les 30 premières années de sa carrière, de sa vie, l'étude de ces 30 premières années m'a permis de découvrir que la famille, c'était une famille de confiseurs. Donc, son père était confiseur, il a tenu un hôtel, il a été chocolatier, etc. Mais ça vient de loin, puisque, effectivement, le grand-père et l'arrière-grand-père étaient eux-mêmes confiseurs. Et donc, c'est l'arrière-grand-père qui était venu de Cambo, ville où j'habite, donc c'est un sujet d'intérêt, et pour Bayonne. Du côté de sa mère, des véritables bayonnais. En 1913, il s'engage au 49e régiment d'infanterie. Là aussi, on a un peu défloré le sujet. 49e régiment d'infanterie de Bayonne. Pourquoi s'engage-t-il? En tout cas, je n'ai pas trouvé de résultats concernant ses études. Il ne fait pas partie des bacheliers de 1911-1912. Je sais en revanche qu'une chose, le service militaire était à 2 ans et il va passer à 3 ans. L'avantage quand on est engagé, c'est qu'on a des permissions, alors que les appelés n'avaient pas de permission. On a un salaire et on a un certain nombre d'avantages, et notamment on peut choisir son régiment. Donc choisir son régiment, dans la ville de papa et maman, ça n'est pas désagréable. Le 49e régiment d'infanterie, beaucoup de gens, d'auditeurs le connaissent. Il quitte Bayonne pour se diriger vers la Lorraine. Il file vers la Lorraine, vers l'est, nord-est. Il est rapidement donc en chemin de fer. Il est rapidement ramené au sud de Charleroi, donc en Belgique. Il va franchir la frontière en Belgique, mener les combats, donc un baptême du feu dans la région de Charleroi. Ensuite, il participe à la défense de Guise, c'est comme ça qu'on dit dans la région. Donc, le général Lanrezac, 5e armée, qui donne un premier coup d'arrêt aux Allemands, et ce qui permet effectivement faire infléchir le von Kluck exactement, qui va se diriger non pas à l'ouest de Paris, mais à l'est de Paris. Donc, avec la victoire le coup d'arrêt de Guise, on a les prémices de la bataille de la Marne. Le régiment replie, il passe la Marne, il se retrouve du côté de Provins, et il va lancer la contre-attaque. Et la contre-attaque, quand on connaît un peu le terrain, j'ai de la famille qui vivait dans les environs, donc les plateaux du bassin parisien, et on arrive sur le plateau de Californie, qui est dominé par le chemin des Dames, donc qui mène de Laon à Soissons. Et là, les Allemands ont préparé l'heure arrêt et le régiment subit un sacré coup. Le dénommé Capagori est blessé, main gauche, bras gauche. Il est ramené en 1916, il sera déclaré inapte au service et il faut bien choisir un métier. Il n'y a pas de métier stupide. On rentre dans l'administration coloniale française et en 1917, donc, il va être envoyé, après s'être marié, comme commis des services civils de l'AOF. C'est-à-dire qu'il est au niveau d'un caporal ou peut-être d'un sergent. Il va passer 8 ans, 4 ans dans l'actuel Mali et 4 ans au Sénégal. En 1925, il réussit deux choses. Premièrement, son divorce. Deuxièmement, il réussit le concours de l'école coloniale. Il va passer donc environ 10 mois à l'école coloniale qui se trouve à Paris dans les locaux qui ont été occupés à un moment par l'école nationale d'administration. Alors cette école coloniale est importante parce que ce n'est pas uniquement apprendre à faire le travail de compte-rendu et d'administration, mais c'est effectivement une ouverture d'esprit. On vous envoie là-bas, vous allez commander des hommes, mais vous allez surtout être en rapport avec des chefs locaux, vous allez être confronté à la maladie, vous allez avoir à développer l'instruction publique, à développer l'agriculture, et il faut donc vous intéresser à tous les domaines, y compris les langues vernaculaires. Donc, je vous présente, pour les gens qui ne connaissaient pas, on voyait ça en rose sur les cartes. Donc, l'Afrique occidentale française, Mauritanie, Mali, Liban, jusqu'au Niger. La frontière entre les deux, ça marche moins bien, on ne voit pas bien. Voilà, la limite entre les deux. L'Afrique occidentale française, lorsque Capagori quitte la France, elle existe effectivement. L'Afrique équatoriale française, elle va être encore modifiée en cours de route. Donc, il est mis à disposition du patron du Moyen Congo, du gouverneur général du Moyen Congo. Et c'est dans ce Moyen Congo qu'il va passer ses années de 1926 à 1940 en tant qu'administrateur. Donc, le territoire du Moyen Congo, ça correspond au Congo Brazzaville actuel, plus au nord une partie de l'actuelle République centrafricaine et à l'ouest une partie du Gabon actuel, et c'est notamment dans cette région de Franceville, les hauts plateaux Batéké, qu'il va être administrateur de 1937 à 1940. Donc le territoire du Moyen Congo, il va passer 9 lieux de résidence en 14 ans. Il a une connaissance approfondie du territoire. En cours de route, il a une progression tout à fait normale. Il est en général 7e ou 8e sur des promotions de 15-16 administrateurs, donc administrateurs de 3e classe, administrateurs de 2e classe, etc., jusqu'à 1937, où il a pratiquement le niveau de colonel. Et il devient chef du département du Haut-Ogoué. On verra, l'Ogoué, c'est le grand fleuve du Gabon. Il va être l'administrateur de ce territoire de 1937 à 1940. Ce département a pour capitale Franceville, donc c'est là la famille Bongo actuelle est originaire de Franceville. C'est au Gabon actuellement, mais de 1925 à 1946, ce territoire a été cédé au Moyen Congo. Alors voilà, je ne vous citerai pas les noms, mais voilà en rouge les huit postes qu'il a tenus. Le 9e, Franceville, où il est administrateur, donc, et il se trouve sur le Haut-Ogoué. Voilà l'Ogoué qui, lui, prend sa source dans les plateaux à 300 km au nord-ouest de Brazzaville et va se jeter à Port-Gentil. Alors que se passe-t-il en 1940? Bon, tout le monde sait le triste sort de la France en 1940. Et dans les colonies africaines, les administrateurs sont complètement sidérés. Ils sont là depuis longtemps, ils défendent, pour eux c'est la grande France, et là ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils sont complètement désemparés. Et l'appel du 18 juin, personne ne l'entend, mais il y a quand même des gens qui sont contactés, puisqu'il y a les colonies anglaises qui sont proches, les Nigeria Gold Coast, et ils savent qu'il faut résister. Et puis, on ne connaît pas exactement les modalités de l'armistice, et on se demande si les Allemands ne vont pas un jour essayer de récupérer le Cameroun, qui a été une de leurs colonies, et ne vont pas essayer d'avoir des missions d'armistice dans les colonies. Pour ces administrateurs, c'est absolument impensable. C'est la France éternelle qu'ils représentent. Il va y avoir un événement qui s'appelle les Trois Glorieuses de l'Empire, qui rappelle exactement les Trois Glorieuses qui ont chassé le roi Charles X du pouvoir. Donc le 26 août, le gouverneur général du Tchad, qui est un Guyanais, noir comme les Noirs, qui dit « Je me rallie au général de Gaulle ». Le lendemain, Leclerc, qui était commandant et qui, en une nuit, passe de commandant à colonel, de Gaulle a dit « Belle promotion ». Et il est chez les Anglais et il fait basculer la partie de territoire qui est du Cameroun, qui est gérée par les Français. En effet, la colonie allemande du Cameroun a été partagée entre les Anglais et les Français et est normalement gérée par les Anglais et les Français au nom de la Société des Nations. Et le 28 août, le médecin général Cissé fait arrêter le gouverneur général de Brazzaville et le remet au colonel Larmina, qui lui se trouve à Léopoldville dans le Congo belge, et exite le gouverneur général. Donc ces trois territoires passent à De Gaulle. Trois jours après, le territoire de Lubangui-Chari, donc ce qui est la République centrafricaine maintenant, tombe également, et il reste le Gabon. Que fait Kapagori ? Le Gabon, le gouverneur se trouve à Libreville, et il y a un certain nombre de Français qui sont à Port-Gentil, donc la côte. Elle bascule le 27 août, et le gouverneur se rétracte en disant, parce que les coloniaux qui sont là disent « Non, attends, c'est pas possible », d'autant plus qu'il y a un renfort d'aviation qui est envoyé par Vichy sur place, avec un général, et Kapagori, lui, qui se trouve donc dans pratiquement l'arrière-pays du Gabon, le 2 septembre, il dit « Moi, je me rallie à De Gaulle ». Le 7 octobre, puisque certains administrateurs ne se sont pas encore ralliés, il remonte l'Ogoué, il va voir les gens de la province méridionale, il a des contacts avec le nord du Gabon, et il dit « maintenant, tout le monde doit passer à De Gaulle ». En revanche, ça ne se passe pas bien du côté de la côte. Alors, je vous ai dit que le gouverneur général avait dit « Je suis gaulliste le 27, le 28, il est pétainiste ou bien légaliste ». Et De Gaulle arrive à Douala et finalement va dire « Non, il faut à tout prix qu'à Libreville, le problème soit réglé ». Donc le problème va être réglé de trois côtés. Donc en 15 jours, d'une part, du Cameroun du Nord vont descendre des troupes avec quelques blindés. D'autre part, de la côte, Leclerc va débarquer avec des troupes. Et enfin, du Sud, il y a effectivement des troupes gaullistes qui vont attaquer. Donc le résultat, c'est que le gouverneur, il va y avoir quand même plus d'une centaine de morts. C'est une petite guerre civile, hein, donc avec quand même des blindés. Leclerc, je dirais qu'il a, il a du sang français malheureusement sur les mains. Et le 12 novembre, l'affaire est réglée. Le 14 novembre, le gouverneur général se suicide. L'affaire est réglée. Le Gabon côtier est également entre les mains des gaullistes. Donc le résultat, c'est que De Gaulle, qui n'avait eu comme renfort comme que des troupes venant de Narvik, il avait 7000 hommes environ sous ses ordres. Il avait une capitale, Londres, qui n'était pas sa capitale et ce n'était pas un territoire français. Là, en moins de 3 mois, il a un vaste territoire. Il a une capitale qui va être Brazzaville et il a des moyens pour pouvoir continuer le combat. Dès lors, De Gaulle, donc, il installe sa capitale à Brazzaville. C'est pour ça que 3 villes étrangères ont été, plusieurs villes étrangères, mais notamment les 3 villes gaullistes qui ont été décorées de la Légion d'honneur. Il y a eu Londres, Alger, Brazzaville. Voilà, les 3 ont été décorées de la Légion d'honneur. Soustelle a dit « La France libre fut africaine ». Et effectivement, de 1940 jusqu'à novembre 1942, ce sont les territoires de l'AEF qui vont servir de base pour les offensives vers le nord, vers les troupes italiennes donc, qui sont dans le faisan, la Tripolitaine, qui était occupée par les Italiens, d'autre part, renfort des Anglais avec la bataille de Bir Hakeim lors de la bataille de Tobrouk. Voilà donc un peu plus agrandi. Le Franceville, Port-Gentil, Libreville et Brazzaville, avec en face, de l'autre côté du Congo ou du Zaïre, selon les appellations, la ville de Léopoldville. Donc le Logowé fait environ 900 km. De 1940 à 1942, que va faire Capagori? Alors, il va être gouverneur d'un département du Moyen Congo. Et puis, pendant que le gouverneur va être en promenade à l'intérieur du pays, il va être le gouverneur intérimaire. Donc, c'est pour vous dire qu'on lui fait confiance. D'autre part, il va avoir 4 responsabilités. Il faut fournir des soldats pour Leclerc. Bon, là, on engage à tour de rôle dans des bataillons de marche. Il va falloir trouver des travailleurs qui sont payés hein, pour la logistique, pour entretenir les routes. Quand on a vécu les averses de la saison des pluies dans l'Afrique équatoriale, on comprend qu'on a besoin de vraiment entretenir les routes. Toutes les plantations du sud-est asiatique ont été occupées par les Japonais. On manque de latex. À l'époque, pour faire des pneus, on n'a que le latex. La forêt, à défaut des grandes plantations, la forêt produit du latex. Et donc, la France libre va produire du latex qui va être vendu aux Britanniques. Et enfin, les sous-sols de ces pays, notamment du Gabon, sont riches en or. Donc, c'est un bon moyen pour augmenter les finances, le budget de la France libre. En effet, les lingots d'or de la Banque de France avaient été évacués dès le printemps 1940 vers les Antilles, le Sénégal, l'Afrique du Nord, les États-Unis et le Canada. On n'en avait pas envoyé en Angleterre. On n'était pas. Mais le Canada, c'était un peu les Anglais. Que va-t-il faire ensuite? Eh bien, il y a une menace. Ce n'est pas une menace allemande, ce n'est pas une menace italienne. C'est la menace britannique. Les Britanniques, vous savez, ont toujours voulu être les maîtres des océans. Donc, l'océan Indien, ils ont senti qu'il y avait une menace potentielle de la part des Japonais. C'est vrai que certains sous-marins japonais ont franchi la ligne, donc le méridien du sud de l'île. Donc ils vont, comme ils l'ont fait avec la flotte française dans les ports britanniques en 1940, comme ils l'ont fait à Mersel Kébir en 1940, août 1940, là ils vont attaquer la grande base française du nord de Madagascar qui s'appelle Diego Suarez. Donc ils vont attaquer, en quelques jours ils vont réussir à s'emparer de cette base, donc effectivement c'est une base merveilleuse. Il y a environ 500, les pertes environ 500 hommes de part et d'autre. Hein. Et ensuite, après s'être occupé s'être emparé par surprise de la base de Diego Suarez, ils vont lancer un certain nombre de débarquements sur les côtes de Madagascar. Et les légalistes ne vont pas se laisser faire. Et pendant 3 mois, il va y avoir des combats jusqu'à la reddition de capitale de Madagascar. Tananarive, merci. Donc, aussi bien le coup de main sur Diego Suarez que la poursuite des opérations ont rendu fou De Gaulle. Une fois de plus, les Anglais l'ont en quelque sorte trahi. Donc, ils pensent, il y a la Réunion. Il ne faut pas que ça se passe à la Réunion comme ça se passait à Madagascar. Donc, il va y avoir une opération française sur la Réunion. Cette opération est menée par Capagori. Capagori quitte Brazzaville, il va aller au Cap, ensuite il va aller à l'île Maurice, il récupère 75 commandos et il va se présenter depuis le 27 novembre, il se présente devant Saint-Denis de la Réunion. Là, il y a une batterie qui tire le contre-torpilleur français recule et puis ensuite détruit la batterie. Donc, l'opération française, 3 morts français, point final. Capagori va débarquer sur la pointe des Galets, donc pas loin de l'emplacement de la batterie, va prendre contact avec l'évêque de la Réunion pour pouvoir avoir une liaison avec le gouverneur de la Réunion qui, lui, s'est replié sur les hauteurs. Et il y a un accord en disant « Bon, maintenant, ça y est, nous ne sommes pas les Britanniques, nous sommes les Français, etc. Je vous connais, monsieur le gouverneur, je suis moi-même de l'école coloniale, donc vous allez sortir avec les honneurs. » Et donc, le gouverneur, le 30 novembre, le gouverneur de la Réunion va quitter la Réunion exactement comme s'il était remplacé par un nouveau gouverneur. Il part avec les honneurs. L'affaire s'est passée. 3 morts français, point final. Donc beaucoup mieux qu'au Gabon. Capagori va donc être le 73e et dernier gouverneur général de la Réunion. Alors son premier souci, c'est de ravitailler la Réunion. Et le ravitaillement de la Réunion va lui valoir un surnom, Papa de Riz. Ben oui, Capagori, papa de riz. Donc, effectivement, le riz va arriver à la Réunion, et pas seulement le riz, mais également les tissus. La population féminine n'osait plus sortir des cases parce que les femmes étaient en lambeaux. Ensuite, Capagori, comme tous les gouverneurs généraux des colonies, va participer à la conférence de Brazzaville. Donc, cette conférence de Brazzaville du 30 janvier au 8 février 1944, qui précise la volonté de Gaulle de transformer les colonies, d'amener progressivement les colonies à des États indépendants. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bien sûr, compte tenu de son action, il va être fait compagnon de la libération en octobre 1944. Sur place, il y a besoin d'apaiser les tensions. Il y a vraiment des rivalités entre certains groupes de Français. Il y a des guet-apens, des morts, et la vie politique n'est pas drôle. Donc, il va faire en sorte qu'il y ait un véritable apaisement, que les procès soient déportés, notamment à Paris. Il va développer économiquement et socialement l'île avec un programme de logement, aménagement global. L'île va également, il va aider à l'introduction du franc CFA, comme toutes les colonies françaises d'Afrique. Le 26 décembre, ça devient la monnaie légale de l'île. Et enfin, il prépare la départementalisation. Donc, le 15 août 1947, après presque 5 ans de gouverneur général de la Réunion, il passe le pouvoir au premier préfet de la Réunion, qui devient département français. Que va-t-il devenir ? Il va être affecté en 1947 donc à Madagascar en tant qu'inspecteur général des affaires administratives, promu gouverneur de première classe, et il va rester jusqu'à sa retraite en 1951 à la Réunion, à Madagascar. Madagascar lui plaît bien, il reste à Madagascar encore 21 ans. Il est le représentant des Français de Madagascar au Conseil supérieur des Français de l'étranger. Mais lorsque le président Tsiranana est renversé en 1972, il quitte Madagascar et il se replie sur, pas Bayonne, mais la Réunion. Et il va décéder le 19 mai 1981 et il sera enterré à 300 mètres de l'endroit où il a débarqué, près de l'île, près de la plage des Galets. Sa tombe donc est régulièrement entretenue. Je n'ai plus réussi à trouver trace de sa deuxième épouse, qu'il a épousée à Fort Rousset, donc au Moyen-Congo. En revanche, contrairement à Bayonne, son nom est connu à La Réunion, Saint-Denis de La Réunion, puisqu'un square d'enfants porte son nom. Et cela, je trouve, lui va bien, puisque vous avez bien compris que c'était un homme de modération qui a essayé de ne pas faire couler le sang français plus qu'il ne fallait pour que De Gaulle puisse réussir son action. Merci pour votre attention.
Jean-Charles Capagori, 1894-1981, une brillante carrière au service de la France, loin de Bayonne. Vous venez de suivre l'intervention du général Philippe Voûte, conférencier et membre de la SSLA. Les 150 ans de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, société savante et personnalité régionale. Rencontre scientifique organisée par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne à l'occasion du 150e anniversaire de sa fondation. Novembre 1873, novembre 2023, avec le concours de la ville de Bayonne. Les 150 ans de la SSLA à la Maison des associations de Bayonne, les 22 et 23 novembre 2023. Retrouvez toutes les interventions sur le site internet de Radio Lapourdie, www.lapourdie.net.